Vous écoutez, on lit pour vous.
Des enseignants dénoncent le racisme envers les infirmiers africains à Gaspé. Un texte de Lisa Marie Gervais paru le 14 février 2025 dans Le Devoir. Des infirmières et infirmiers africains formés au cégep de la Gaspésie et des îles ont vécu du dénigrement et du racisme pendant leur stage à l'hôpital de Gaspé, a appris Le Devoir. À l'automne 2024, la situation aurait été à ce point inacceptable qu'elle a été dénoncée aux autorités par des enseignants qui les supervisaient. Le Cégep et le CI3S de la Gaspésie reconnaissent qu'une situation préoccupante a eu lieu. Le Devoir a mené sa propre enquête. Les personnes interviewées ont témoigné sous le couvert de l'anonymat afin de ne pas nuire aux démarches des futurs soignants, recrutés dans le cadre du programme du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI, visant à faire venir 1500 infirmières et infirmiers de l'étranger. Selon nos informations, le climat était particulièrement difficile à l'hôpital de Gaspé. Les étudiants africains se voyaient confier la double tâche, c'est-à-dire qu'ils devaient concilier le travail de préposé aux bénéficiaires en plus d'être évalué comme infirmier, a confié au Devoir une personne au fait de la situation. Cela allait jusqu'à empêcher les étudiants africains de poser des actes d'infirmier, les confinant principalement à des tâches de préposé. Certains se sont fait dire qu'ils n'étaient pas bons et ne deviendraient jamais des infirmiers, qu'au mieux, ils seraient des préposés aux bénéficiaires. Ce n'était pas du tout un contexte pour apprendre, a déploré une autre personne au fait de la situation. Je ne comprenais pas qu'on puisse les traiter comme ça. D'autres ont subi des propos racistes et des méchancetés, se faisant notamment reprocher leur odeur. Par moments, le climat de travail aurait été à ce point désagréable que des enseignants se sont demandé s'il ne valait pas mieux pour eux et les étudiants d'arrêter la formation. C'était au point où on se disait « on va perdre les étudiants », a rapporté cette même personne. Une situation qui a eu lieu. Le directeur de la formation continue du cégep de la Gaspésie, Éric Couillard, reconnaît les faits et parle d'une situation préoccupante qui lui a été rapportée à l'automne 2024. « La situation que vous rapportez, c'est une situation qui a eu lieu », a-t-il reconnu. « On n'a pas pris ça à la légère. » M. Couillard explique que des discussions ont d'abord eu lieu avec l'équipe en place et l'enseignante coordonnatrice du milieu clinique et que des interventions ont suivi. Après, c'est revenu à moi. On trouvait ça visiblement préoccupant ce qui s'était produit en termes de propos, beaucoup de méchanceté. A-t-il poursuivi. Une rencontre en haut lieu a alors été organisée avec des gestionnaires du cégep, de même qu'avec ceux du CI3S de la Gaspésie, qui étaient déjà au courant du problème, selon M. Couillard. En 2 ans, c'est la seule fois que je peux vous dire que j'ai vraiment dû intervenir après la fin d'un stage, de façon officielle, au niveau du CI3S, pour recadrer et dénoncer cette situation-là. A-t-il soutenu. Bien qu'aucune plainte formelle n'ait été déposée, le CI3S de la Gaspésie dit être au fait de difficultés rencontrées dans certains départements et rapportées par des enseignants superviseurs de stage. Les équipes de travail concernées ont été rencontrées de même que les étudiants, indique-t-on. L'arrivée des IDHC, infirmiers diplômés hors Canada, est un projet sans précédent pour notre organisation. Nous en tirons des apprentissages et nous ajustons encore, a affirmé Cassandra Lévesque, adjointe au PDG et responsable des communications par intérim au CI3S de la Gaspésie. Alors qu'une nouvelle cohorte commence sa formation ces jours-ci, une rencontre de suivi sera organisée afin d'assurer son intégration en douceur. On peut nommer ça du racisme. Au consortium en soins infirmiers du Vieux-Montréal, un organisme chargé de fournir du soutien pédagogique au cégep qui forme les étudiants étrangers du programme, on dit avoir été mis au courant de la situation en janvier par l'entremise d'une personne enseignante de Montréal qui a supervisé des stages à Gaspé l'automne dernier. Il y avait des enjeux dans cet hôpital-là, a dit au Devoir Éric April, le directeur de la formation continue au Cégep du Vieux-Montréal et gestionnaire principal du consortium. On semblait avoir de la difficulté à reconnaître qu'ils étaient dans un stage comme infirmiers et infirmières parce qu'on les considérait encore comme des préposés. À mon sens, c'est un préjudice, a-t-il ajouté. Puis, quand on ajoute à ça le fait qu'ils sont africains, on peut nommer ça du racisme. Il insiste toutefois pour dire que le mandat du consortium n'est pas d'enquêter sur des allégations ou des dénonciations qui seraient faites. On n'est pas là pour valider les faits, on est là pour soutenir l'aspect pédagogique. Depuis que le MIFI lui a donné le mandat de soutenir les cégeps, aucune plainte formelle n'aurait été déposée au consortium de la part d'étudiants ou d'un cégep. Monsieur April croit que les mécanismes de plainte gagneraient à être mieux connus des étudiants. Le MIFI dit avoir été informé des problèmes d'intégration des stagiaires à Gaspé et a obtenu du cégep qu'il fasse un suivi auprès des étudiants, notamment pour les informer des mécanismes de plainte. Le cégep de la Gaspésie et des Îles a reçu jusqu'ici plusieurs cohortes issues du programme du MIFI. La première, en 2023, avait nécessité certains rajustements, comme l'avait rapporté Le Devoir. Au total, sur 77 étudiants accueillis, 7 ont échoué et 2 ont abandonné, pour un taux de réussite de 88%. Il y a 2 semaines, Le Devoir avait révélé que des infirmières et infirmiers recrutés en Afrique et formés au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avaient eux aussi été humiliés, victimes de propos racistes de la part d'enseignants et de membres du personnel clinique des hôpitaux, ce qui avait mené à une vague d'échecs. C'était « Des enseignants dénoncent le racisme envers les infirmiers africains à Gaspé », un texte de Lisa Marie Gervais paru le 14 février 2025 dans Le Devoir.
Les maires sur la ligne de front de l'anxiété citoyenne. Un texte de Marco Fortier paru le 26 février 2025 dans Le Devoir. L'explosion du coût de la vie et les tensions internationales dû notamment au coup d'éclat de Donald Trump, crée de l'anxiété parmi les électeurs québécois. Les élus municipaux se trouvent en première ligne de la tourmente. Les attentes augmentent envers les gouvernements locaux, perçus comme un rempart contre la pénurie de logements, la crise de l'itinérance et même le dérèglement climatique. Des dossiers qui ne relèvent même pas des villes. Il y a un climat ambiant d'angoisse, j'oserais même dire de colère des électeurs, au Canada et partout ailleurs dans le monde, résume Cynthia Daris, vice-présidente Québec de la firme Léger. Dans ce climat anxiogène, les citoyens se tournent vers leur gouvernement de proximité pour trouver des solutions, ajoute-t-elle. L'entreprise de marketing vient de publier son indicateur municipal 2025, établi d'après un vaste sondage mené dans toutes les régions du Québec. Le coût de sonde, effectué sur le web entre le 21 et le 29 janvier, auprès de 2010 répondants, âgés de 18 ans et plus, montre l'ampleur du défi qui attend les dirigeants municipaux. Anxiété généralisée. Les chiffres confirment l'état d'esprit troublé des électeurs en cette période de crise. 81% des répondants sont préoccupés par la guerre tarifaire de Trump contre le Canada. 50% pensent que nous sommes en récession. 46% vivent de paye en paye et 39 % craignent de perdre leur emploi. Les priorités des citoyens, qui étaient à peu près les mêmes depuis une trentaine d'années, ont évolué en conséquence. La collecte des déchets, l'entretien des rues et le gel du compte de taxes ont fait place à d'autres dossiers plus urgents. L'abordabilité du logement arrive en tête de liste pour 52 % des répondants. Une majorité claire d'électeurs souhaite que leur ville en fasse davantage, non seulement pour l'accès à des logements abordables, mais aussi en matière d'itinérance, de transport collectif et de lutte contre les changements climatiques. C'est une des grandes surprises de ce coup de sonde-là. Les gens ont des attentes par rapport à de nouveaux enjeux qui n'étaient pas là par le passé et qui ne sont pas du ressort des municipalités, explique Cynthia Daris. Les conclusions du sondage donnent du crédit au plaidoyer incessant de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en faveur d'investissements importants des gouvernements fédéral et provincial. La mairesse soutient que la ville doit gérer des problèmes qui relèvent en grande partie de Québec et d'Ottawa. Le financement de logements sociaux et abordables, les soins aux personnes itinérantes, le financement des transports en commun et l'adaptation des infrastructures au changement climatique, notamment. Désir de changement. Les citoyens sont-ils au courant que les villes tirent environ la moitié de leurs revenus des impôts fonciers? Les municipalités ont peu de marge de manœuvre financière pour livrer des services attendus avec impatience par les citoyens, ce que confirme le sondage de Léger. Sans surprise, le taux de satisfaction des électeurs envers la machine administrative de leur ville et envers leurs élus municipaux est en baisse. Peut-être parce que la crise de l'itinérance, du logement et du coût de la vie ne montre aucun signe de répit. La satisfaction envers la qualité des services municipaux atteint une moyenne de 6,3 sur 10 comparativement à 7,3 sur 10 il y a 5 ans. La satisfaction des répondants envers leur maire ou leur mairesse est un peu plus faible, à 5,8 sur 10. C'est quand même nettement supérieur au taux de satisfaction envers les gouvernements du Québec, qui est à peine de 38 % et du Canada, 32 % indique le sondage Léger. Le désir de changement aux prochaines élections municipales, le 2 novembre 2025, est plus fort que par le passé. 45 % des répondants souhaitent que l'équipe au pouvoir dans leur ville soit remplacée, comparativement à 36 % il y a 2 ans. Les électeurs ont tout de même une opinion favorable de leur maire ou mairesse, qui sont jugés travaillants, 79 % honnêtes, 79 % bons communicateurs, 72 % et fiables, 69 %. C'était les maires sur la ligne de front de l'anxiété citoyenne. Un texte de Marco Fortier, paru le 26 février 2025 dans Le Devoir.
« 2024, une année de record dans un Arctique de plus en plus chaud. » Un texte de Nelly Guidici, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavois. L'année 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Au Canada, Le réchauffement se fait de plus en plus sentir car, selon les données d'Environnement et Changement climatique Canada, ECC, le pays se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Le Nord est particulièrement touché, ce qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes à la fois très fréquents et intenses. Le Nunavut se réchauffe. Les données recueillies par les différentes stations de CC indiquent que 5 communautés sont particulièrement touchées par ce réchauffement. Les températures moyennes de l'automne 2024 à Baker Lake, Rankin Inlet, Joa Haven, Gambridge Bay et Resolute sont très au-dessus des normales de saison. Ces données relevées en septembre, octobre et novembre 2024 montrent des anomalies thermiques de 5 degrés Celsius. La communauté de Joa Haven détient le palmarès avec une température moyenne relevée de moins 3,6 degrés Celsius, alors que la normale est de moins 10,6 degrés Celsius, soit 7 degrés de plus. L'extrême nord et l'extrême sud sont en train de se réchauffer disproportionnellement par rapport au reste de la planète. Les territoires et l'archipel arctique, qui couvrent la majeure partie du Nunavut et une partie des territoires du Nord-Ouest, se réchauffent 4 fois plus vite que la moyenne globale, dit Armel Castellan, météorologue au Bureau de Victoria pour Environnement Changement Climatique Canada. Anomalie des températures dans les territoires. À l'automne 2023, des températures anormalement élevées avaient été relevées par ECC Canada durant les mois de septembre, octobre et novembre. Le Nunavut, les TNO et le Yukon, ainsi que l'extrême nord-ouest du Nunavik, ont fait face à des vagues de chaleur avec notamment des températures situées 4 degrés au-dessus de la normale dans la partie nord-ouest du Nunavut. Yellowknife était également dans le rouge avec une moyenne des températures 3,5 degrés au-dessus de la normale. Les relevés de l'automne 2024 montrent que tout le territoire du Nunavut est touché par des anomalies de température oscillant entre plus 2 et plus 4 degrés au-dessus des normales. Le Nunavik a également été frappé par ces anomalies de température. Cependant, l'effet inverse s'est produit dans le sud du Yukon où des températures plus fraîches ont été enregistrées. Castellan remarque que, cette année, le Nunavut est à nouveau l'épicentre des anomalies de température automnale. Les territoires du Nord-Ouest étaient nettement plus proches de la normale cet automne. Des records battus dans les TNO durant l'été. Deux records ont été battus durant l'été 2024. Les communautés de Fort McPherson, Inuvik et Polatuk ont connu les températures les plus chaudes jamais enregistrées. Les 6, 7 et 8 août, les températures ont dépassé les 30 degrés Celsius, soit plus de 10 degrés Celsius de plus que la normale pour cette période de l'année à Inuvik. Le 7 août, la température a atteint 33,1 degrés Celsius à Aklavik et le 8 août, un nouveau record de température maximale a été enregistré à Fort McPherson pour la troisième journée consécutive avec 35,1 degrés Celsius. Sur les rives sud de l'océan Arctique, la communauté Inuvialuit de Polatuk a connu une température record de 31 degrés Celsius le 8 août. D'autres communautés ont été très près de battre leur record absolu de température, notamment Yellowknife, avec un record historique de 32,6 degrés Celsius, établi en 2021. Il a fait 32,2 degrés Celsius le 17 juillet 2024, ce qui en fait leur troisième température la plus chaude jamais enregistrée, explique M. Castellan. La communauté de Tulita a atteint une température maximale de 34,6 degrés Celsius le 8 août, tandis que Fort Good Hope a enregistré des records historiques de température maximale pendant 3 jours consécutifs du 7 au 9 août, avec un pic à 37,0 degrés Celsius le 9 août 2024. Cette vague de chaleur au TNO fait partie des 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024. Environnement et changement climatique Canada rappelle, dans une annonce du 10 décembre 2024, que la chaleur extrême a augmenté le risque d'incendie. Sur les 5,3 millions d'hectares de forêt qui ont brûlé au Canada en 2024, près d'un tiers l'ont été dans les TNO, soit environ 1,7 million d'hectares. Le réchauffement continu de l'Arctique. Dans son dernier rapport sur le climat rendu public le 11 novembre 2024, l'Organisation météorologique mondiale, institution spécialisée des Nations unies, sonne une nouvelle fois la sonnette d'alarme. En plus d'annoncer que les 10 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées, elle indique que la disparition des glaciers s'accélère. Selon le rapport 2024 Environnement et changement climatique Canada, la disparition des glaciers s'aggrave. En 2023, les glaciers ont perdu 1,2 mètre d'équivalent en eau de la glace, soit environ 5 fois la quantité d'eau contenue dans la mer morte. Il s'agit de la perte la plus importante depuis le début des mesures en 1953. Ce record est dû à une fonte extrême en Amérique du Nord et en Europe. L'étendue des glaces de mer de l'Antarctique et de l'Arctique ont toutes deux été bien inférieures à la moyenne en 2024. De son côté, le programme européen Copernicus a aussi révélé qu'au mois d'octobre 2024, la glace de mer arctique a atteint sa 4e étendue mensuelle la plus faible en étant 19% en dessous de la moyenne. La mer de Barents, l'archipel arctique canadien et la région de Svalbard sont particulièrement touchés par ce phénomène. Pour Samantha Burgess, directrice adjointe du service changement climatique du programme, il est maintenant pratiquement certain que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée et la première année à dépasser de plus de 1,5 degré Celsius les niveaux pré-industriels. Ce constat ne signifie pas pour autant que les accords de Paris ont été rompus, mais qu'une action climatique ambitieuse est plus urgente que jamais selon elle. D'après Environnement et changement climatique Canada, le moment est critique, car ces vagues de chaleur frappent avec une intensité particulière l'Arctique canadien, qui se réchauffe environ 3 fois plus vite que la moyenne mondiale, entraînant des répercussions importantes dans les communautés locales. Fin novembre 2024, la route nord du passage du Nord-Ouest a connu sa plus faible couverture de glace jamais enregistrée, devenant presque totalement libre de glace. C'était 2024, une année de record dans un Arctique de plus en plus chaud, un texte de Nelly Guidici, paru le 22 janvier 2025 dans le Nunavoie.
Charles Lafortune et Sophie Préjean parlent de différence, un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 30 janvier 2025 dans Hebdo Rive Nord. Parents d'un enfant vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, le couple formé de Charles Lafortune et Sophie Préjean a animé une conférence touchante pour les responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial, les éducatrices, les parents et les intervenants du bureau coordonnateur du CPE, le Chat-Perché, le 22 janvier dernier, au Théâtre Alphonse Desjardins. Cette activité s'inscrivait dans la programmation de la thématique annuelle du bureau coordonnateur repentignois, soit « La différence, chat s'intègre ». À cette occasion, le duo bien connu du public s'est ouvert aux nombreuses personnes présentes sur l'expérience intime et parfois difficile des parents d'un enfant autiste. Dès les premiers mots, le ton était donné. La soirée s'est ainsi déroulée sous le signe de la sincérité, du courage et de l'espoir. Charles Lafortune et Sophie Préjean ont ouvert leur cœur pour témoigner de leur quotidien en tant que parents, des défis auxquels ils sont confrontés au jour le jour, mais aussi des moments de bonheur et de fierté qu'ils vivent avec leur enfant. Ils ont également expliqué que l'autisme, bien qu'il se traduise différemment d'un enfant à l'autre, est souvent accompagné de défis invisibles aux yeux de la société. Cela a donné lieu à des réflexions poignantes sur la stigmatisation et l'incompréhension dont peuvent souffrir les enfants autistes et leurs familles. Mais au-delà des difficultés, ce témoignage de Sophie Préjean et Charles Lafortune a su mettre en lumière la résilience et la capacité d'adaptation des parents, ainsi que la beauté de voir un enfant évoluer à son propre rythme. Célébrer les petites victoires. Par ailleurs, il a été question de l'importance du soutien, tant social qu'émotionnel, de la mise en place de structures adaptées et du rôle clé des professionnels pour accompagner les familles. Par leurs interventions, Charles et Sophie ont su peindre le sombre tableau de l'autisme d'éclats lumineux, en insistant sur les victoires quotidiennes, aussi petites soient-elles, qui nourrissent leur combat pour une meilleure compréhension et pour l'inclusion de l'autisme dans la société. Après coup, les responsables du bureau coordonnateur Le Chat-Perché ont pu constater l'appréciation des participants à la conférence, qui se sont montrés touchés par la simplicité et la profondeur des propos de Charles Lafortune et Sophie Préjean, notamment leur courage à parler ouvertement de leur réalité difficile, mais porteuse d'espoir, a permis d'offrir un éclairage précieux sur la vie des familles touchées par l'autisme pour les éducatrices et intervenants qui gravitent autour d'elles. Cette soirée restera gravée dans les mémoires, estime Audrey Urbain, directrice adjointe du bureau coordonnateur, non seulement pour la qualité des témoignages, mais aussi pour l'appel à une plus grande solidarité et à une meilleure inclusion des personnes autistes dans notre société. C'était Charles Lafortune et Sophie Préjean parlent de différence. Un texte de Marie-Christine Gaudreau, paru le 30 janvier 2025 dans Hebdo Rive-Nord.